Bonjour et bienvenue pour ce 8e numéro d'En Spectateur. Aujourd'hui, nous revenons sur deux spectacles que nous vous présentions dans de précédents numéros. Il y a deux semaines, rappelez-vous, nous recevions Mélodie Carecchio, flûtiste de l'ensemble baroque INSEE, qui collaborait avec la compagnie La Lumineuse à la mise en scène de Suréna, jouée les 18, 19 et 20 octobre dernier en Théâtre Cantor. Nous y étions, vous découvrirez nos critiques. Retour également sur Macbeth de Verdi, mis en scène par Ivo Van Hove à l'Opéra de Lyon et dont nous vous parlions la semaine dernière. Et pour revenir sur ces deux spectacles, l'équipe fixe dans Spectateur est là au grand complet. D'abord la vie nuancée de l'élégante Irène. Bonjour Irène.
Bonjour.
L'expertise passionnée du théâtre de la bande. Bonjour Antonio.
Bonjour.
Et enfin le regard parfois grinçant et polémique, souvent très juste, de notre lama de la critique. Salut Florent.
Salut.
Enfin, petit nouveau dans la bande, mais loin d'être nouveau sur les ondes de Transistor. Jocelyn, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand nous parlerons au opéra, nous t'appellerons forcément en renfort, toi et ton immuable abonnement au Théâtre du Châtelet, toi et ton amour pour l'opéra. Voilà, tu es prévenu. Alors, on est au complet, le temps d'un jingle qui fera office des trois coups, et nous commençons. C'est avec la tragédie baroque Suréna de Corneille que nous entamons cette émission. Gros succès pour cette mise en scène de la compagnie La Lumineuse parce que le Théâtre Cantor était presque rempli les 18, 19 et 20 octobre. Alors si vous n'y étiez pas, vous avez manqué quelque chose. Alors pas forcément l'histoire même de Suréna, somme toute assez banale. Un homme et une femme de conditions sociales différentes qui s'aiment mais ne peuvent s'aimer parce que l'un, Suréna, général victorieux, a obtenu en récompense de sa loyauté et de sa bravoure la main de la fille de son roi. Et parce que l'autre, Eurydice, princesse arménienne, doit épouser le fils de ce même roi, clause du traité de paix oblige. Une tragédie qui mêle et fait s'entremêler, sphère publique et sphère privée, amour et politique, bref, l'histoire d'individus confrontés à la raison d'État. Rien de neuf sous le soleil de la tragédie, rien de brillant non plus, et on comprend aisément que cette tragédie, la dernière de Corneille, ce qui la rend par un autre égard assez touchante, n'ait pu empêcher le déclin du dramaturge et concurrencer l'astre Racine. Suréna paraît en effet bien pâle face à Phèdre ou à Britannicus. Non, si vous avez manqué quelque chose en fin de semaine dernière, c'est la mise en scène unique et originale, une mise en scène baroque qui se voulait fidèle, sans être vériste, ou sans être une parfaite recomposition historique. Sur scène, point de décor, pour tout éclairage, une rampe de bougie et les comédiens de jouer face au public sans se regarder les uns les autres. Ajoutez à cela une gestuelle, une diction baroque et la présence sur scène de l'ensemble baroque INSEE et vous voilà transporté l'espace d'une soirée dans un univers inédit, magnifiquement suranné. Alors justement, vous êtes-vous laissé transporter, vous, autour de la table? Alors je me tourne vers toi, Florent, et j'ai cru comprendre que tu voulais rendre un petit hommage.
Alors, hommage à Suréna, Pierre Corneille, compagnie La Lumineuse. Une pièce, ma foi, fort peu originale, qui chez Monsieur Corneille semble des plus banales, tant l'argument semble être une énième reprise. Un vilain prince jaloux de sa princesse promise, amoureuse d'un héros que le roué veut dompter, qui par amour pour elle ne veut se marier, s'infligeant la colère de son maître inquiète. La sœur du héros n'a poué le cœur quiète car elle aimait le prince. Ainsi la pièce rebatte des cartes déjà vues et l'ennui qui s'abatte semble bien nous guetter. Les acteurs, pardieu, nous sauvent de l'ennui d'un spectacle odieux. La troupe La Lumineuse, car telle est bien son nom, recrée de l'âge baroque les actes et le ton. Je m'en inspire ici pour dire ma chronique, mais les gestes, quant à eux, sont peu radiophoniques. Il me les faut expliquer, à défaut de les faire, je vais m'y appliquer sans plus de manière. De chaque mot-clé, un geste souligne la portée, la gestuelle tout entière se vouait chorégraphier, et l'acteur, face publique, en posture hiératique, exécute des mains une danse esthétique que les chansons baroques appuient de leur plein chante. Tout au fouet, je ne peux que me dire que c'est chiante. Que l'on me comprenne bien, je trouve admirable le travail des acteurs, ce qui fut considérable, afin de retrouver, relire, recréer tous ces gestes d'époque et nous faire oublier tout ce travail sur scène où l'image reste belle. mais je trouve ce spectacle d'une amertume cruelle. Pendant mes errements au milieu de la pièce, quand je tente d'oublier que le rire me caresse, au milieu du tragique, je pense à quelque idée qui aurait tenu ma chronique occupée. Je vous en fais donc part. Points ne seront perdus. Ces songes qui dans ma tête auront fait cocus, ridis sur Rena, auront des pacorus, occupant mon esprit plus qu'il n'aurait dû. La scène ressemblait à la guillotière. Si une panne de courant la plongeait dans le noir, tout y était. Sari, accent bougeoir, et partes et arméniens y vivent mieux qu'hier. Puis je me demandais si l'empreinte écolo d'un spectacle si beau à l'éclairage intime, ou plus que suivre baroque on brûle paraffine, aurait l'heure de plaire à Cécile Duflo. Mais coupons ici court aux pensées indécises. Je ne voudrais en 8 vers résumer mon avis. Je me sentais en somme un apôtre sceptique devant mon maître Christ et son pouvoir magique. Ressemblante le savoir qui par Dieu fut donné, il exhume Lazare, le sort du tombeau. S'agite cabaliste, l'autre fait des soubresauts. La vie enfin revient, Lazare s'est levé, mais cela fut en vain, la chair était pourrie. Si j'admire le travail, le résultat m'ennuie.
Bon alors Irène, tu viens d'écouter Florent. En gros, il a bien aimé, mais il trouve surtout que le projet est bien et que sinon, le résultat pâtit un petit peu. Même sentiment.
Mais justement, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est aussi, je suis pas d'accord, on ne s'ennuyait pas et au contraire, je trouvais que c'était une expérience extrême. Mais bon, c'est aussi parce qu'on était au théâtre de l'ENS que cette mise en scène, ce parti pris, pouvait véritablement résonner au même titre que ce texte résonnait d'autant plus qu'on se concentrait davantage, que la mise en scène se concentrait davantage sur lui et vraiment le faisait chanter. Parce que une mise en scène aussi dénudée et un intérêt pris au texte de manière aussi extrême le mettait en valeur sans pourtant le figer, parce que la diction baroque, alors que c'est une entreprise de muséification, de le replacer dans son contexte, eh bien, pour moi, cette expérience était exotique, puisque j'entendais le texte de manière musicale, vraiment, il résonnait à mes oreilles, et je m'attardais aux mots, aux formulations, et véritablement, j'ai pris un plaisir à entendre ce vieux Corneille qui a quand même la réputation d'un classique poussiéreux.
Et là où ton expérience de l'extrême se vérifie, en revanche, je pense que c'était pas juste dans le cadre de l'ENS, parce que lors de l'interview que j'avais fait avec Mélodie Carecchio, elle me disait qu'ils avaient eu comme public au départ des collégiens et que c'était très bien passé. Donc il n'y a pas que dans le cadre de l'ENS. Finalement, peut-être que on sous-estime le potentiel de cette pièce à ne pas ennuyer, malgré ce que dit notre Florent National.
Mais en effet, l'expérience de collégien ou collégienne, je l'ai déjà vécue avec une diction baroque des Fables de La Fontaine. Et je pense quand même que malgré la réussite de ces représentations avec des collégiens, c'était l'approche scolaire qui permettait aux collégiens de s'accrocher un peu à la mise en scène. Je pense que malgré tout, il faut une maturité pour entendre ce texte, notamment parce que l'intrigue est relativement compliquée, que les sonorités rendent les mots parfois absolument incompréhensibles, mais la gestuelle, le fait quand on connaît Corneille, quand on connaît un peu cette pièce, même quand on la connaît pas, mais qu'on est renseigné, il est possible de la... Quand on est renseigné, il est possible d'y prendre véritablement plaisir.
J'aimerais répondre juste un instant, mais au niveau de l'intrigue, moi j'ai trouvé que c'était pauvre et que c'était un peu Yerevan, ton univers impitoyable, ou les feux de l'amour en Arménie. Fin...
Non mais alors, pour revenir là-dessus, Florent, ce que voulait dire Irène, je pense, tu me confirmes Irène, c'est qu'effectivement l'intrigue est complexe, elle n'est pas compliquée, parce qu'effectivement elle est assez banale, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'après elle est complexe, les entre-là de l'amour, si, il y a quand même
et
plusieurs
du
personnes.
Et du politique.
Mais après nous, on est habitués à ça. Voilà.
Et la mort Marion Cotillard, qu'il ne faut pas oublier.
Continue, Irène.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part peut-être l'importance de la musique. Et pour un public renseigné, ce que le mot baroque, comment le mot baroque peut alors résonner à nos oreilles, puisque quand même Corneille, c'est le classicisme. Et ici, le baroque... le classicisme esthétique. Mmh. Et ici, le baroque, la diction baroque et la musique baroque faisaient sortir quelque chose d'autre de ce...
Tout qu'en plus, quand on regarde Surena, c'est vraiment une des pièces les plus classiques de Corneille.
Toute fin de sa vie.
En concurrence avec Racine. On n'est pas du tout dans l'illusion comique. Où, ça aurait été peut-être d'ailleurs plus intéressant de voir comment, d'un texte véritablement baroque, appliquer cette méthode. Même si tu as raison, ça faisait sortir quelque chose d'autre. Alors toi, Antonio, plutôt du côté d'Irène ou du côté de Florent, même si on a vu qu'il y avait quand même de gros points communs entre les deux.
Je suis au milieu.
Alors développe
c'est
ton
la
propos.
Voix de la vérité.
C'est pour ça qu'il est si consensuel, notre Antonio, en fait.
Je suis pas du tout consensuel. Non, j'y suis allé un peu en traînant des pieds parce que je suis d'habitude assez réticent à ce genre de propositions, à ces archéologies de la représentation que je trouve pas à proprement parler théâtrale, mais plus philologique ou en tout cas intéressante en elle-même. Voilà. Mais j'ai trouvé malgré tout qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce spectacle. J'ai pas pu m'empêcher de penser à une certaine pensée du théâtre, à un certain imaginaire qui veut qu'au moment où le rideau se lève, un autre monde nous est présenté derrière ce rideau, un monde complètement différent. C'est en tout cas le rêve ou le grand fantasme du théâtre bourgeois, du théâtre réaliste où un autre monde existe tel quel sur scène. Et curieusement, j'ai trouvé qu'ici, ça fonctionnait un peu de la même manière. Alors, il n'y a évidemment pas de rideau, mais peut-être que la musique qu'on entend au début fonctionne de la même manière, comme un lever de rideau, et qui permet en quelque sorte l'avènement de cet autre univers, la révélation de cet autre monde qui est celui du 17e, et qui est entièrement pris en charge par les comédiens dans leur corps, dans leur voix. Alors, je me suis dit, dans ce cas-là, qu'importe la précision historique de ce qui nous est proposé, autant se laisser séduire, se laisser aller à l'étrangeté, puisqu'après tout, on ne saura jamais si les représentations du 17e avaient lieu effectivement comme ça, et qu'on est face plutôt à une manière de fantasmer sur ce 17e. Je pense par exemple au travail qui est fait sur les mains. On sait que c'est un théâtre dans lequel on ne se touche pas, je crois. Il y avait ici un travail assez subtil sur le contact des mains entre les amants, la manière dont ils se font face ou pas, etc. En tout cas,
d'où le fait aussi du choix très efficace en mise en scène de cette rampe de bougie qui forçait à une présentation frontale du texte et à un des contacts à minima.
Oui. Enfin, vraiment, voilà, c'est par ce biais-là de l'imaginaire, du rêve sur une époque et sur un certain théâtre que j'ai pu apprécier le spectacle. Mais je dois admettre ceci dit que le parti pris, ce parti pris unique qui est invariable tout au long de la représentation, peut lasser.
Donc là, tu rejoins Florent.
Voilà. La proposition est un peu à double tranchant. On pourrait la renverser. Dans la mesure où on nous présente quelque chose, un objet qui se revendique comme étrange, lointain dans le temps en tout cas, on peut le trouver somptueux, comme vient de le dire Irène, ou se sentir complètement à l'écart, être profondément ennuyé par ça, d'autant plus que ça pourrait être plus ou moins fait pour, enfin c'est assez difficile, comme tu viens de le dire tout à l'heure, de se repérer dans ces intrigues politiques, amoureuses, qui sont à la fois connues, ressassées, et en même temps ici développées de manière particulière. Enfin, pour le dire dans un mot, sans être emballé, au-delà du spectacle, j'ai quand même passé une très bonne soirée.
Alors ce sera le mot de la fin, je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous le partagez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser votre commentaire sur la page de l'émission. On les lit tous, même ceux qui sont longs. Et vous pouvez aussi sur la page en plus retrouver à l'écrit en version originale toutes les critiques, ainsi que des critiques supplémentaires cette semaine, celle de Willem à propos de Surena, justement. Changement d'atmosphère et de lieu maintenant, je vous emmène à l'Opéra de Lyon, ou plutôt dans une Écosse, changée en Wall Street, le temps d'une mise en scène audacieuse, celle d'Ivo Van Hove, du Macbeth de Verdi. Quand le rideau se lève, Pas de château, pas de plaine et de forêt. Bienvenue dans un open space aux murs gigantesques qui occupe toute la scène et dans lequel les chanteurs rentrent par trois doubles portes battantes disposées au milieu de chacun des trois murs gris. Écran plat, clavier d'ordinateur, tablette numérique et autres graphes forment le décor quand rentrent, telle une masse grouillante, les employés pressés. Puis les murs eux-mêmes s'animent, ce sont en effet des écrans géants. Moyen considérable donc pour une mise en scène qui fait des sorcières des traders, de Macbeth un banquier ambitieux qui n'hésite pas à tuer pour parvenir à ses fins et de la forêt de Birnam les indignés d'Occupy Wall Street. On voit même passer un Anonymous sur scène et deux caméramans ainsi qu'une femme de ménage black, présente et muette du début à la fin, ignorée sinon méprisée de ses patrons boursicoteurs et qui ouvre à la fin de la pièce les portes du château entreprise à l'armée indignée de MacDulf. Bref, il fallait oser. Mais le pari est-il réussi ? Qu'est-ce que t'en penses, Florent ?
Cette semaine encore, une grande expérience sociologique s'offre à nous. La semaine dernière, nous nous encanaillions à Vénissieux et l'opéra cette semaine était supposé nous réconforter, nous remettre dans le grand bain de la bourgeoisie lyonnaise. D'ailleurs, nous étions au parterre avec nos semblables, moyenne d'âge 58 ans à vue de nez, enfin confortablement entourés par rien qui ne ressemblât à un jeune ou à une quelconque minorité visible qui eût pu nous importuner durant l'œuvre. Ainsi allaient mes pensées, prime sautière dans la moiture rassurante de la salle, les narines baignées dans le parfum douceâtre de l'eau de Cologne de mon voisin, dont le pied battait déjà sur les premières mesures de l'orchestre. Et là, ce fut le drame. Au lieu d'une bière rassurante ribambelle de kilt, chaudron, nez crochu et compagnie, voilà que nous nous retrouvons à Wall Street, dans ce qui ressemble à une salle de la bourse, pleine de tradeuses, hein, si l'on en croit les néologistes féministes, qui prédisent à Macbeth un destin de roi de la finance apparemment. Cette transposition dans le monde de la bourse avec son festival de projections gigantesques sur scène devient réellement convaincante dans la deuxième moitié de l'œuvre, quand les Anonymous et autres membres du mouvement Occupy Wall Street envahissent les bureaux de Macbeth Kerviel pour l'éliminer, lui qui les a exclus du monde. Si, comme certains de mes voisines de parterre, emperlousées jusqu'aux fibromes et drapées de fourrure en dépit de la remarquable douceur du climat, vous pensez que l'opéra n'est pas le lieu pour se vautrer dans une admiration béate pour la plèbe, allez-y quand même. L'absence de kilt et de château en ruine, s'il déçoit votre côté romantique, n'empêche pas les chanteurs d'être excellents, en particulier Lady Macbeth. Et puis vous pourrez toujours huer la tourbe populacière qui envahit le plateau à la fin, en profitant de l'obscurité complice de la salle, comme l'ont courageusement fait les femmes suscitées. Si au contraire vous ne vivez que pour qu'on dépoussière le répertoire ou pour les protestations de la société civile ou les deux, allez-y également car c'est un pari qui risquait de tourner au simple collage qui a bien réussi. Cependant, camarades gauchistes, force est de se demander dans quelle mesure cette adaptation est pernicieuse en ce qu'elle fige la sacro-sainte révolution. Bref, que vous vouliez envoyer le voyou de metteur en scène en prison pour outrage aux bonnes mœurs et atteinte au patrimoine immatériel de l'humanité, ou placer le social traître en camp de travail pour récupération bourgeoise des forces populaires, allez voir Macbeth, ça déchire.
Paris globalement réussi, selon Florent et toi Antonio, qu'est-ce que t'en penses ?
À propos de Shakespeare, et en particulier devant ce spectacle, nous avons tous en tête cet essai extrêmement célèbre dont le titre « Shakespeare, notre contemporain » donne le ton et par lequel Hamlet peut se dérouler comme un scandale d'espionnage au KGB et où Richard III n'est pas sans rappeler les luttes de pouvoir les plus récentes. Nous sommes ainsi invités à lire non pas l'œuvre de Shakespeare à la lumière de notre actualité, mais inversement, à mieux comprendre l'histoire qui est en train de se faire, notre histoire, à partir des schémas tragiques desquels nous ne savons pas sortir et que Shakespeare aurait pour ainsi dire développé une fois pour toutes. C'est donc bien ce parti pris-là qui est suivi dans ce Macbeth à l'Opéra de Lyon, où, comme tu viens de le rappeler, l'armée écossaise du dernier acte se lamente sur sa patrie oppressée en portant haut de nombreuses banderoles et pancartes qui rappellent de manière tout à fait explicite les plus récentes manifestations d'indignés, Occupy Wall Street ou le mouvement du 15 mai en Espagne. Et il semblerait bien que tout le travail de la mise en scène soit piloté par cette dernière image d'un peuple qui, guidé par Macduff, prend le pouvoir sur le sanguinaire Macbeth. Je parle de sa fin, mais on peut aussi évoquer la scène d'ouverture avec ce cœur des sorcières bien singulier. Ces femmes élégantes en tailleur qui s'affairent sur les écrans plasma pour poser le décor Bercy ou Wall Street comme il vous plaira. Ce Macbeth-là se veut donc engagé de bout en bout et l'on sent pointer ici une critique de la part du metteur en scène, en particulier à l'encontre des prophéties autoréalisatrices de cet univers qu'il veut dépeindre. Si les sorcières traders n'annonçaient pas à Macbeth ce qu'il attend, On peut se demander s'il commettrait les crimes qui provoquent son ascension et sa chute. J'entends déjà rire certains d'entre vous de ce rapprochement un peu simpliste entre sorcières, traders, banquiers, etc. Et à mon avis, vous avez en partie raison. Ce petit rire qu'on entend, c'est le signe des points faibles de cette lecture, le signe de là où la dramaturgie d'Ivo Vanov achoppe, à mon avis. Notamment, on peut regretter que de nombreuses forces à l'œuvre dans l'opéra soient ici considérablement aplaties. À la fin du premier acte, le chœur réuni sur scène fait part de l'horreur dont il est saisi en apprenant l'assassinat du roi, et cela dans la plus pure tradition shakespearienne, où la mort des monarques entraîne inévitablement les pires cataclysmes, et on pense notamment aux dérèglements naturels qui suivent l'apparition du spectre dans Hamlet, ou qui annoncent l'assassinat de Jules César lors des Ides de Mars, et qui lie tout cela donc à des problèmes de métaphysique du pouvoir, si on veut utiliser les grands mots. De fait, ce pouvoir plus ou moins abstrait auquel s'accroche Macbeth finit ici confié au peuple, envahissant la scène, peuple qui s'est choisi comme leader Macbeth. Alors le spectateur sceptique que je suis n'a pas réussi à s'accommoder d'un tel propos, ici souligné, surligné, en tout cas considérablement mis en avant. D'abord, parce qu'on peut aisément voir dans ce Macduff un nouveau Macbeth, rien nous en empêche. Et ensuite, parce que la représentation qui nous est donnée de cette prise de pouvoir introduit une sorte de déterminisme historique dans une œuvre qui précisément m'en semble dépourvue. Qu'on se réfère au célèbre monologue du héros, c'est une histoire contée par un idiot, plein de sons et de fureur qui ne signifie rien, etc. Ces parties prises scéniques difficiles à tenir de bout en bout s'accompagnent donc d'une réalisation, à mon avis, tout aussi discutable. On peut noter tout d'abord de beaux moments de théâtre servis par une direction d'acteurs assez fine, en particulier lors des scènes entre guillemets intimes entre les époux Macbeth et Lady Macbeth, où Ivo Vanov fait rester sur scène l'un d'eux quand sa place est a priori en coulisses, créant ainsi de nouvelles possibilités de jeu, explorant un peu plus en avant les relations qu'on peut imaginer entre ces personnages. Mais c'est davantage la représentation des multitudes, des groupes qui échouent à mon avis, surtout celle de l'armée écossaise, donc ici des indignés, des citoyens qui réclament de participer à l'exercice du pouvoir. La majeure partie de cette représentation est confiée à la vidéo, comme tu viens de le rappeler, projetée dans un format gigantesque sur les trois murs qui délimitent l'espace scénique, et cette vidéo, au lieu d'enrichir ou de compléter, d'infirmer par exemple ce qui nous a donné à voir sur le plateau, donne une impression ennuyeuse, comme si le metteur en scène se dédouanait grâce à elle de faire un véritable travail de direction d'acteur ou de composition des masses sur scène. D'autant plus qu'il a en quelque sorte créé ce personnage nouveau qu'on a brièvement évoqué, celui de la femme de ménage des bureaux, qui fonctionne comme une présence constante et énigmatique, mais si énigmatique qu'on finit par s'interroger sur sa nécessité.
Et sur son sens, oui.
Voilà. Alors, la vidéo nous raconte certes ce qui se passe hors champ, permet des cadrages et des gros plans sur les acteurs présents sur scène.
Qui sont assez saisissants du fait du gigantisme des écrans, d'ailleurs.
Écran si grand que j'ai vraiment eu l'impression de les voir prendre le pas sur le jeu, sur ce qui se passe sur scène, en aplatissant toute la direction d'acteur qui est réduite à la portion congrue ou inexistante. Quand la vidéo ne déploie pas des extraits documentaires ou des éléments symboliques nourris de télévision ou cinéma, alors il y a référence à Matrix, à Ma sorcière bien-aimée notamment, enfin tout y passe. Enfin, pour le dire en un mot, tout cela est à force bien redondant et bien illustratif à mon avis. Alors en sortant du théâtre, je ne peux pas m'empêcher de me demander, Ivo Vanov n'aurait-il pas malgré lui basculé dans ce qu'il semble par ailleurs pointer du doigt, à savoir une certaine démagogie.
Alors Ivo Vanov est-il démago, Myrène ? Qu'est-ce que tu en as pensé toi ?
Alors, si être démagogique, c'est prendre un thème qu'on a vraiment à cœur et qui est une révolte citoyenne et essayer de l'introduire dans une tragédie qui, effectivement, n'a pas l'air de s'accommoder de cette idée. Oui, mais je crois vraiment que Ivo Vanov a réussi quelque chose et en même temps, n'a pas su prendre cette distance avec la tragédie de Macbeth. Ce qui se passe, en fait, c'est que Ivo Vanov délivre un message engagé, avec la reprise du thème de Wall Street, de la finance, et de la révolte du peuple opprimé, de la patria oppressa. mais cependant, il trahit tout à fait Verdi, puisqu'il refuse... Il refuse le patriotisme de Verdi, en représentant des altermondialistes, en représentant une crise mondiale, Et en même temps, il refuse l'appel quasiment militariste de Verdi, qui, dans le quatrième acte, scande toute la musique d'une marche militaire. En tout cas, si je me souviens bien, pour la première partie du quatrième acte, dans lequel, dans cette première partie, les opprimés, enfin le peuple, marche vers Macbeth. Et de manière très significative, le peuple ne tue pas Macbeth et érige une sorte de hibou en fait de briques et de broc, qui pour moi ressemble à une sorte de, enfin, et le signe d'une sorte de malédiction plus ou moins citoyenne, à la limite de enfantine. Donc il semble que Ivo van Hove amollisse complètement le message de Verdi qui est violent, hein, qui est quand même relativement sanguinaire. Et ceci, c'est intéressant et c'est très finement mené, puisque contrairement à ce que dit Antonio, moi j'ai trouvé que dans le quatrième acte, et seulement dans le quatrième acte, les écrans étaient extrêmement bien utilisés, puisque l'apport de la télévision, de l'effet télévisuel sur scène, n'était pas seulement pour pallier un manque de direction d'acteur. Au contraire, c'était pour montrer que cette foule n'était pas une foule anonyme une foule écrasée par un seul sentiment de révolte, et qui ferait référence dans ce cas-là à une foule presque militaire et donc une foule qui n'a pas sa véritable, qui balaie les identités et les individualités. Et au contraire, les écrans permettaient de se focaliser sur les individualités, puisque si on se souvient bien, les caméramans qui circulent sur scène se centrent sur les visages des opprimés, sur le visage des cantateurs.
Donc, contrairement à ce que disait Antonio, qui accusait là quelque chose de trop simpliste et essayer d'échapper à un travers de direction d'acteur, toi tu penses au contraire que c'est une direction d'acteur forte, ça permet plus de nuances.
Je ne pourrais pas m'exprimer sur la direction d'acteur, mais c'est-à-dire que c'est très intéressant puisque ça permet de dépasser la foule l'idée d'une foule anonyme, puisque un va-et-vient perpétuel est alors soumis au spectateur qui fait le retour entre la scène qui est une foule, et les écrans qui représentent des individualités. Et à cela répond quelque chose que j'ai trouvé un peu moins bon, c'est le côté un peu clip Benetton de la foule, bigarrée, colorée, avec chaque minorité visible dont parlait Florent représentée sur scène. Mais c'était vraiment et je trouve que le travail sur les écrans et la télévision était en cela intéressant et significatif, puisque c'est vraiment ce que la télévision aussi, c'est aussi une réflexion sur le télévisuel, sur la télévision. Et c'était réussi. Mais voilà, le problème, c'est qu'à plaquer un message aussi contradictoire sur l'opéra de Verdi, sur le message musical, mais le message aussi
politique
qui est présent dans le livret, la patrie oppressée, le patriotisme, est-ce que Ivo van Hove n'aurait pas eu tout simplement intérêt à faire son propre spectacle ? Il n'a pas, c'est là où je dis qu'il n'a pas pris ses distances, c'est qu'il a pas, il a absolument voulu étouffer le message de Verdi, il ne l'a pas pris en compte, il n'a pas pris ses distances, on dirait qu'il n'a pas réussi à prendre ses distances puisqu'il a plaqué quelque chose dessus.
Est-ce que c'est justement pas un acte militant aussi de Ivo van Hove, peut-être un peu défendre, je me fais son parti, sans vraiment savoir si c'est ça qu'il a derrière la tête, mais est-ce que justement en voulant affaiblir une pensée qui justement parle de nationalisme, de patriotisme, pour imposer un message où on voit, on va dire à grands traits, l'altermondialisme, est-ce que c'est pas justement un parti pris, tout simplement, et de montrer que le mythe de Macbeth et de ses liens entre politique et individu, on peut les réinvestir autrement, aujourd'hui.
On peut appeler ça aussi de la propagande.
Mais il y en a peut-être aussi du côté de Verdi, donc
tout à fait.
Retour de propagande.
Mais est-ce que pour autant il y a une place laissée libre aux spectateurs pour une réflexion, parce que je dirais pas que c'est démago non plus, parce que je trouve que c'est intelligemment fait, mais c'est vrai que on en sort on a totalement oublié, pour quelqu'un qui ne connaît pas Verdi, on a totalement oublié que Verdi c'est aussi le
dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas penser que quand Verdi a fait son opéra, certaines personnes ont eux-mêmes pu être choquées du dévoiement de la tragédie de Shakespeare qu'il y avait là, Donc finalement, Ivo Van Hove fait comme Verdi, mais il prend le contre-pied total.
Mais ça peut sembler être une trahison, puisque Verdi est un auteur à part entière. Ivo Van Hove, un metteur en scène. Enfin, ouais. Je laisse la parole à
Jocelyn qui fait des grands signes pour intervenir. Alors, quel parti prends-tu dans cette discussion qui vire au politique ?
Moi, je suis assez frustré, en fait, sur la mise en scène. À la fois, l'impression que le metteur en scène s'est bridé et est allé trop loin. Concernant le mot trahison, je voulais revenir dessus, parce que je pense pas qu'on puisse parler d'une trahison, au sens où, comme le disait l'ancien directeur de l'Opéra de Paris, sulfureux, par ailleurs, Gérard Mortier, on peut très bien proposer une mise en scène qui soit contraire à la musique, donc à l'œuvre, si c'est pour mieux la faire entendre. Et je pense que de ce côté-là, c'était à peu près ce à quoi on assistait. À savoir qu'on a eu une transposition qui finalement, même si au départ elle pouvait sembler périlleuse du fait de la facilité de choisir un sujet financier dans le contexte actuel, s'avère finalement cohérente, lisible pour le spectateur lambda et tout à fait défendable par le metteur en scène.
Et efficace en plus.
Et efficace de ce point de vue-là, pour qui est sensible au message véhiculé. Moi, ce qui m'a plus gêné dans ce qu'on pourrait appeler la trahison, mais je dirais plutôt la frustration, c'est le traitement en fait, psychologique des mécanismes sociaux qui sont derrière l'œuvre de Verdi. À savoir que quand l'opéra commence, finalement, on a l'impression que les rôles sont déjà distribués, que la vérité appartient finalement au bon peuple, ici donc représenté notamment par les traiteuses, puis plus tard par à la fois les employés, les salariés de l'entreprise.
Et puis les indignés.
Et les indignés. Et de l'autre côté, finalement, Macbeth, les financiers, les dirigeants, tous ripoux dans ce monde.
Bref, en gros, ce que tu nous dis, c'est que dès le départ, on a les bons et les méchants.
Voilà, c'est ce qui peut conduire à l'impression, je pense, de démago qu'on a à la fin vis-à-vis finalement d'un final qui est attendu et peut-être un peu simpliste sur les abords. Je voulais prendre justement la comparaison avec le choix qui avait été fait en 2009 à l'Opéra de Paris par Dimitri Tchernakov dans sa mise en scène, qui avait été aussi très discutée, très critiquée. Parce que, pour résumer, Macbeth était transposé dans une sorte d'univers à la Magritte, gris, peut-être de Colchos soviétique, avec des foules qui évoluaient sous des nuages menaçants et un salon assez finalement renfermé, oppressant hein, pour le couple Macbeth. Dimitri Tchernakov, lui, disait que Macbeth devait être réhabilité, à savoir qu'il était finalement victime d'une société qui était en quête d'expérimentation. Et c'est tout à fait ce qui manque dans la mise en scène de Ivan Van Hove, c'est qu'on ne voit pas finalement ce qui conduit Macbeth, qui au départ apparaît finalement comme un homme ordinaire, à être poussé au meurtre et finalement la prise de pouvoir assez violente qu'il pratique. Lui qui est finalement un personnage qui est faible, qui est fou, qui n'est pas un roi qui assume son autorité et qui assure son autorité, lui qui est très dépendant de sa femme, qui est ici par contre brillamment représentée dans la production lyonnaise. Et donc finalement, on ne voit pas comment la société influe sur Macbeth et comment la société finalement pousse Macbeth au crime. Alors que celle-ci est en partie responsable de, dans l'esprit de l'opéra, est aussi responsable finalement de l'évolution psychologique du personnage. Et on n'a pas ce rapport en fait, équivalent entre d'une part de la société vers Macbeth et de Macbeth vers la société, mais finalement un rapport en sens unique qui nous est proposé, où finalement Macbeth, dès le départ, semble condamné à la critique acerbe.
D'ailleurs, il ne meurt pas à la fin.
Ce qui, pour moi, en tout cas, en termes pareil, de comparaison, m'a beaucoup frustré, puisque il ne semble pas incompatible de faire mourir le personnage et en même temps d'avoir la note d'espoir que va avoir le metteur en scène.
Ouais, c'est-à-dire, pour préciser, à la fin, il est sur un banc, un des indignés lui donne avachi. Son manteau, il est avachi complètement, et on a l'impression donc que la foule
l'incorpore. Donne même la soupe.
Comme si la rédemption lui permettait de faire partie de ses indignes.
Alors que je ne suis pas persuadé que dans le final tel qu'il a été composé, l'arrivée de Macduff et ce qui a été dit soit non plus un signe d'espoir.
Oui, alors
ça peut être justement une nouvelle expérimentation de la société.
C'est ça, et là on le voit tout à fait avec la reprise qu'on avait fait Ionesco dans son Macbeth, où il a élargi à la fin en trahissant, on va dire, là encore, trahir ou traduire les pensées de Shakespeare en faisant jouer Macduff et en le montrant comme un tyran, et un tyran encore pire que Macbeth.
D'ailleurs, ce qui était assez intéressant, puisqu'on faisait la comparaison avec la production de 2009 à Paris, à la fin de cette production de Tchernakov, on voit Macbeth qui est dans son salon, mais il n'y a pas le chœur là sur scène, le chœur est dans les coulisses, donc on l'entend, Par contre, le salon dans lequel se trouve Macbeth, qui est un espace réduit en termes de volume, et c'est ce qui manque d'ailleurs aussi dans cette production à Lyon, c'est le jeu sur les volumes finalement. On n'a pas d'évolution du décor qui reste très statique à part ces habillages vidéo. Donc à la fin donc, de la production de Paris, ce qui se passait, c'est que Macbeth finalement se retrouvait dans un salon qui était démoli. On voyait les murs partir en lambeaux, la poussière, et finalement le personnage disparaît sous les ruines, la foule n'étant pas présente. Il y avait une image symbolique assez forte, tandis que là, on virait vraiment quelque chose qui était très attendu, suggéré donc tout au long de la présentation par le personnage de la femme de ménage, qui est finalement le témoin silencieux des anonymes.
Qui manque de substance. Qui manque de substance. Qu'il ait un autre rôle que le rôle un peu cliché qu'on lui assigne.
D'autant plus que la couleur de peau, elle est aussi, je pense, attendue pour le personnage, en tout cas. Surtout dans le contexte d'une société plutôt nord-américaine, en l'occurrence. Mais je veux dire, du coup, on n'avait pas une mise en scène qui était surprenante, et à la fois une mise en scène très frustrante, dans le sens où le personnage ne mourait pas, et on avait l'impression de s'être fait un peu voler la fin. Moi, en termes de ressentiment, ça m'a donné la même impression que lorsqu'au Citémus de 2010, l'équipe qui avait monté Hamlet avait arrêté la pièce à la scène du cimetière. L'impression finalement de ne pas avoir de fin, de ne pas avoir assisté au meurtre.
Ah, Antonio, tu veux réagir ? Sur quel point exactement ?
Non, enfin... Ah non. Pas spécialement. je suis d'accord pour dire que globalement, ça manquait de sang et ça manquait de sexe dans ce Macbeth, pour le dire en un mot.
Vous êtes beaucoup concentré dans vos critiques sur les écrans, et ça me rappelle une conversation que j'ai entendue juste en sortant donc, de cette pièce entre deux dames, la soixantaine bien passée, qui disaient qu'elles en avaient vraiment assez de toutes ces pièges où systématiquement il y avait des écrans en appel à d'autres médias et que ça leur tuait le plaisir de l'opéra et que du coup, elles avaient crié bouh parce que quand même, il faut bien qu'elles s'expriment. Donc, je ne pensais pas que vous parleriez autant de ces écrans. Je pense qu'il faut...
Ça ne veut pas dire qu'on est réac. Hein. J'aime beaucoup les nouvelles technologies sur scène, sauf quand
mais c'est pas parce que je dis qu'il y avait deux petites vieilles qui ont dit ça qu'elles étaient réac, non mais oh.
Ça peut l'être. Mais là, c'était vraiment... Enfin, j'ai vraiment pris ça comme de la paresse de la part d'un metteur en scène.
Donc on s'est beaucoup concentré là-dessus. Et à raison, on a décortiqué le parti pris d'Ivo Van Hove et sa mise en scène. Et comme c'était un des piliers de sa mise en scène que ces écrans, vous vous êtes concentré là-dessus.
Juste pour rebondir sur la paresse, justement, ma frustration vient de là, à savoir que je trouvais que c'était des facilités de mise en scène, alors que par ailleurs, la mise en scène, finalement, apparaît comme très cohérente, très lisible, notamment pour un néophyte, et avec des bonnes idées. Donc finalement, une déception du résultat vis-à-vis du travail qui a dû être effectué en amont.
Oui, c'est-à-dire que vous vous êtes quand même concentré sur des points qui sont très précis et qui ne doivent pas laisser croire que vous n'avez pas aimé le reste de la mise en scène. Justement, vous concentrez sur des critiques parce qu'il y a des choses perfectibles dans un spectacle que vous avez tout de même beaucoup aimé.
Surtout que l'idée des traiteuses, est absolument géniale et est une actualisation parfaite du cœur des sorcières.
Comme on dit souvent, qui aime bien châtie bien. Donc on s'est permis de relever quelques points qui vous avaient choqué ou heurté et qui, entachaient un peu une mise en scène, un parti pris plutôt audacieux et intéressant. Mais il faut tout de même rappeler la magnifique direction musicale qui a été faite. On entendait vraiment la musique de Verdi de façon magnifique.
Il faut vraiment, je pense, en souligner toute la perfection. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire avec l'opéra italien, Verdi notamment, ce n'était pas du tout une direction pleine de lyrisme, de bons sentiments musicaux, j'ai envie de dire, d'entrain, mais au contraire une direction très précise, chirurgicale, régulière, minutieuse, mais qui collait parfaitement à l'ambiance de la pièce, à la mise en scène, et qui justement mettait vraiment en valeur pour le coup le propos du message. Enfin, il y avait une très grande cohérence, ce qui n'est vraiment pas tout le temps le cas à l'opéra, entre le parti pris de la mise en scène et ses directions musicales qui rendaient quand même, je pense, grandement hommage à Verdi.
Et également l'interprétation des chanteurs et des chanteuses. Je pense notamment à la superbe Lady Macbeth qu'on avait en face de nous, et même de sa suivante, la Dame d'honneur, qui était vraiment magnifique. Alors pour les noms, donc on salue le travail de Kazushi Ono à la direction musicale. Et pour les chanteurs, Lady Macbeth était interprétée par Yano Tamar et sa suivante, Kathleen Wilkinson. On saluera aussi le travail de Macdulph et Malcolm interprété par Dmytro Popov et Viktor Otipenko. Bref, il y avait vraiment de la bonne musique, de la magnifique interprétation. Et oui, ça envoyait grave. Je vois Antonio qui fait comme s'il mixait, c'est vrai. Alors, on va s'arrêter là. Si vous êtes plutôt d'accord avec Irène et puis Florent qui disaient que oui, Paris audacieux et Paris globalement réussi malgré certaines limites, ou si vous êtes au contraire plus d'accord avec Jocelyn et Antonio qui étaient assez sceptiques, et ben n'hésitez pas à nous le dire en laissant vos commentaires et vos remarques sur la page de l'émission. Déjà la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi, merci Antoine, à la technique. Alors cette semaine sur les ondes transhistoriennes, la rédaction de Sur Langue de Bois, votre émission politique, vous propose son premier débat autour du droit des femmes. Vaste question me direz-vous, Sur Langue de Bois, parole de militant, première émission animée par Tatiana Fauconnet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous présenterai alors le spectacle Le Guide du Démocrate qui se jouera en novembre au Théâtre des Ateliers de Lyon. Et je recevrai pour en parler le metteur en scène Simon Delétang. D'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.